Le supplément de l'info. Une émission qui analyse et décrypte l'actualité.
Le supplément de l'info avec Esma Fedala.
Sur Radio Algérie Internationale.
Bienvenue dans le supplément de l'info, l'émission qui prend le temps d'explorer les zones d'ombre de l'actualité. Aujourd'hui, un mot que tout le monde utilise mais que personne ne s'accorde vraiment à définir, le terrorisme. Attentat, radicalisation, menace sécuritaire, le terme est partout, mais au fond, que recouvre-t-il ? Existe-t-il une définition claire, commune, universelle ? Ou reste-t-il un mot à géométrie variable utilisé au gré des intérêts politiques et géostratégiques ? Pour y voir plus clair, nous recevons Karim Belkacem, vous êtes spécialiste des questions internationales. Alors, première question, Karim Belkacem, comment définir le terrorisme ? Existe-t-il aujourd'hui une définition commune et universellement acceptée ?
Alors, évidemment, il faut savoir que c'est un des sujets les plus complexes et controversés dans les matières en relations internationales, en droit et en sciences politiques. Si on prend une définition générale et non universelle, le terrorisme est défini comme l'usage illégal de la violence ou de la menace de violence à des fins politiques, idéologiques, religieuses, visant souvent des civils pour créer un climat de peur et d'influencer une autorité ou une population. Alors, pourquoi il n'existe pas de définition unique ? Parce que cette définition est politisée. Un même groupe peut être vu comme terroriste par un État et comme résistant ou combattant de la liberté par un autre. On peut prendre l'exemple de Yasser Arafat et l'Organisation de libération de la Palestine. On peut citer les écarts culturels, juridiques et stratégiques entre États. Et également l'usage stratégique du terme qui sert parfois à délégitimer un ennemi sans jugement objectif. On a pléthore d'exemples de divergences sur la définition même du terme terrorisme. Exemple, l'ONU discute depuis plus de 20 ans d'une définition commune sans parvenir à un consensus. L'Union européenne qui définit des actes comme terroristes s'ils sont destinés à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou déstabiliser un État. Et enfin, les États-Unis, selon la définition du FBI, se focalisent sur des actes violents ayant pour but de contraindre ou d'intimider. Enfin, la définition juridique, qui est variable selon les cadres, selon la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, s'approche d'une définition simplement fonctionnelle. Le droit international humanitaire qui distingue entre combattants légitimes et actes terroristes selon le contexte de guerre. Et enfin, le droit pénal national. Chaque pays a sa propre législation avec des critères différents.
Oui, alors vous venez de le dire, l'ONU a toutes les difficultés à définir un concept dont le sens varie selon ceux qui l'utilisent. Comment combattre quelque chose qui n'est pas défini avec précision ?
Alors, c'est une problématique majeure au cœur du débat international sur le terrorisme. Comment combattre un phénomène mal défini ? Je cite souvent la phrase d'Albert Camus, « Mal nommer les choses, ajouter du malheur au monde ». On est en plein dedans. L'absence de définition universelle du terrorisme handicape les efforts de lutte à plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'incohérence juridique et diplomatique. Ce qui est qualifié de terrorisme par un État peut être considéré comme résistance ou insurrection légitime par un autre. Je prends toujours l'exemple du problème palestinien. Il y a l'absence de consensus qui bloque la mise en place de mécanismes juridiques internationaux communs, par exemple devant la Cour pénale internationale. On le voit avec les exemples de Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Ensuite, il y a tous les obstacles à la coopération sécuritaire. Les coalitions internationales sont fragiles car les priorités divergent. Par exemple, la France ne classe pas les mêmes groupes comme terroristes que les États-Unis ou la Russie. Vous avez certains régimes qui utilisent la lutte contre le terrorisme pour justifier la répression d'opposants ou de minorités. Ça occasionne un problème de légitimité parce que les opérations militaires ou sécuritaires menées sous couvert de la guerre contre le terrorisme peuvent manquer de légitimité s'il n'y a pas de consensus sur la nature de la menace. On peut prendre l'exemple de la guerre en Irak en 2003 et de la guerre contre le terrorisme décrétée par George W. Bush, qui est une notion très subjective. Et cela affaiblit la confiance des populations locales et peut favoriser l'adhésion à certains groupes armés.
Oui, alors les spécialistes mettent en garde contre l'évolution inquiétante de la menace et précisent que le terrorisme s'y est transformé en un instrument de déstabilisation politique et de pillage économique. Êtes-vous d'accord ?
Oui, absolument. Votre question souligne un point essentiel dans l'évolution récente du terrorisme, notamment en Afrique et au Sahel. Le terrorisme est un instrument de déstabilisation politique et de pillage économique. Il y a eu une mutation de la menace ces dernières décennies. On a vu le passage d'un djihad idéologique global à des formes localisées, plus hybrides et opportunistes. Les groupes terroristes exploitent les failles politiques et sociales pour s'ancrer davantage localement et influencer les équilibres du pouvoir. On peut prendre l'exemple du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Vous avez des groupes qui se substituent parfois à l'État dans certaines zones, imposant justice, impôts et sécurité. Ensuite, il y a la déstabilisation politique qui est planifiée. Le terrorisme est devenu un levier géopolitique pour affaiblir des régimes qui sont déjà fragiles, pour entraver les transitions démocratiques ou renforcer les tensions ethniques et communautaires instrumentalisé par certains groupes armés. On prend l'exemple du Burkina Faso, l'attaque systématique des écoles, des institutions locales, des routes et des forces de sécurité vise à effondrer l'État dans certaines régions. Ensuite, c'est un outil de prédation économique, puisque les groupes armés se livrent à des trafics d'or, de carburant, d'armes, de bétail, un contrôle des routes commerciales, des marchés et de la logistique, et de l'extorsion et taxes imposées aux populations locales. Vous avez l'exemple dans le Liptako-Gourma, qui est une région située aux confins du Mali, du Niger et du Burkina. Certaines cellules terroristes qui cohabitent avec des régions criminelles transnationaux. Ça a évidemment des conséquences régionales et internationales. Il y a un effondrement de zones entières d'autorité étatique, des crises humanitaires, des déplacements massifs de populations, les famines, des absences totales de services publics, une perte de contrôle sur les ressources naturelles par les États au profit des acteurs armés illégaux et une réaction en chaîne, montée des mercenaires, recours des coups d'État, fermeture de l'espace civique. Pour la communauté internationale, c'est un enjeu majeur. Elle doit redéfinir les priorités, ne pas se limiter à une lecture sécuritaire, mais intégrer développement, gouvernance et justice sociale, mieux délimiter le concept de terrorisme pour le dissocier des luttes sociales ou politiques légitimes, et enfin, renforcer les capacités étatiques et les initiatives locales de résilience.
Oui, et comment analysez-vous les approches occidentales souvent centrées sur la seule réponse militaire ? On peut citer l'exemple de la Libye.
Alors, il y a évidemment une date majeure, c'est le 11 septembre 2001, puisque les approches occidentales en matière de lutte contre le terrorisme ont été largement dominées par une logique sécuritaire et militaire. C'est une réponse qui s'avère nécessaire dans certains contextes urgents ou face à des menaces directes, mais c'est une méthode qui montre ses limites, voire des effets contre-productifs lorsqu'elle devient l'unique prisme d'intervention. En fait, les approches occidentales, ils opèrent un traitement des symptômes plus que des causes. Les interventions militaires peuvent neutraliser temporairement des groupes armés, mais elles ne s'attaquent pas aux racines profondes du terrorisme, qui sont la pauvreté, la marginalisation, l'absence d'éducation, la corruption et les crises identitaires ou politiques. Donc, cette absence de traitement structurel de ces causes favorise le renouvellement des groupes extrémistes. Et par conséquent, il y a ce risque de radicalisation accrue. Les opérations militaires mal calibrées ou perçues comme injustes peuvent alimenter un sentiment d'injustice ou d'occupation favorisant la radicalisation des nouvelles générations. Le cas de l'Irak avec l'intervention américaine en 2003 ou de l'Afghanistan en 2001, ce sont des illustrations tragiques. Donc il y a une dépendance sécuritaire des États fragiles. Dans les régions comme le Sahel, la priorité donnée à la coopération militaire a souvent supplanté le développement, la gouvernance locale et le soutien aux sociétés civiles. Cette militarisation peut délégitimer les États aux yeux de leur population. Et il y a malheureusement l'effacement des approches non violentes. La logique militaire a tendance à marginaliser les solutions non violentes au détriment de la médiation communautaire, la prévention de la radicalisation de prison, la réintégration des repentis ou des programmes éducatifs ou culturels. Or, ces leviers sont souvent les plus efficaces à long terme. Et il y a une coopération internationale que je qualifierais d'asymétrique. Les pays du Sud sont souvent vus comme des terrains d'opération plus que comme des partenaires égaux. Cela engendre un ressenti, un déficit de légitimité des stratégies antiterroristes occidentales. Alors il y a des alternatives. Il faut avoir une approche globale fondée sur le renseignement local, l'écoute des communautés, la justice sociale, la diplomatie inclusive et évidemment l'éducation qui est essentielle pour affaiblir le terreau au terrorisme. Donc la réponse militaire au terrorisme est un outil parmi d'autres, mais largement insuffisant. Sans vision politique, sans justice, sans aucun développement, toute victoire militaire reste fragile. Après avoir fait la guerre, il faut faire la paix et c'est ça le plus difficile.
Oui. Alors, on ne peut pas parler de terrorisme sans parler de l'expérience de l'Algérie. Les principes directeurs de l'Algérie guident désormais au plan international la lutte contre le financement du terrorisme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entériné leur adoption par son comité contre le terrorisme le mois de janvier 2025. Peut-on revenir sur l'expérience algérienne et son apport à l'échelle continentale ?
Alors l'Algérie se présente au monde comme le pays qui a réussi à vaincre le terrorisme de la décennie noire par ses propres moyens et elle en a fait un motif de fierté, un thème prioritaire, un atout dans son action diplomatique. C'est justement pour renforcer cette réputation que l'Algérie s'est employée à arbitrer deux institutions africaines importantes, à savoir le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme et l'Assemblée générale du mécanisme de coopération policière africaine, l'AFRIPOL, et à assurer la coordination du portefeuille de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. L'Algérie, évidemment, on le sait, a connu une guerre civile dévastatrice dans les années 90, avec plus de 150 000 morts, et cette expérience a forgé une expertise solide dans la lutte contre les réseaux armés islamistes. Et l'Algérie a mis en place un arsenal législatif complet contre le terrorisme, des services de renseignement puissants et expérimentés, qui l'étaient déjà par le passé, mais qui se sont renforcés avec cette expérience. Une approche centrée sur la sécurité, la déradicalisation et la réintégration, notamment via la Charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005. Ensuite, il y a l'initiative des principes directeurs de l'Algérie adoptée par l'ONU en 2025, qui sont présentés comme un cadre normatif international pour assécher les sources de financement du terrorisme. Ces principes insistent sur la traçabilité des flux financiers transfrontaliers, le contrôle rigoureux des ONG et des transferts informels d'argent, la nécessité d'une coopération interétatique renforcée fondée sur le respect de la souveraineté et du droit international, qui est le leitmotiv de la politique algérienne. Et puis enfin, la responsabilisation des plateformes numériques qui facilitent le financement ou la propagande. Tout cela a évidemment un impact sur le continent africain. Cette expérience algérienne est valorisée comme modèle africain de lutte contre le terrorisme, avec un soutien logistique et stratégique à certains pays sahéliens, la formation de cadres sécuritaires africains à l'école africaine de lutte contre le terrorisme, et il y a cette approche souverainiste et coopérative. L'Algérie insiste sur le respect de la souveraineté des États dans la lutte contre le terrorisme, refusant toute ingérence ou tutelle extérieur. On le voit avec la crise entre la France et l'Algérie sur d'autres sujets. Elle promeut également une coopération sud-sud tout en dialoguant avec l'Europe, la Chine, la Russie et les États-Unis sur la base d'intérêts mutuels et équilibrés.
Oui, donc
il y a une contribution africaine à la norme mondiale. Et c'est aussi un changement de paradigme où un État du Sud fort de son vécu propose un cadre globalement accepté, redonnant de la voix à l'Afrique dans la gouvernance sécuritaire mondiale.
Alors, vous avez parlé de plateformes numériques utilisées par des groupes terroristes. Il y a aussi les nouvelles technologies de financement. Les groupes terroristes maîtrisent également l'intelligence artificielle. Comment expliquez-vous cette mutation et l'augmentation des moyens financiers des groupes terroristes ?
Alors, votre question met en lumière une mutation stratégique majeure dans le terrorisme contemporain. Pourquoi cette mutation ? En fait, les groupes terroristes adaptent leur méthode à un monde globalisé et numérique à travers toutes les technologies accessibles à pas coup. On peut citer la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle en open source, les réseaux sociaux. Les écosystèmes étatiques fragiles où le contrôle financier et numérique sont faibles. La réduction des frontières physiques, les différentes campagnes de propagande, de recrutement, de levée de fonds n'ont plus besoin de présence physique. Il y a également l'usage, j'en parlais à l'instant, de l'intelligence artificielle par les groupes terroristes. C'est limité pour l'instant, mais il y a un usage croissant de l'outil de l'intelligence artificielle avec la génération automatique de contenu, ce qu'on appelle en anglais les deepfakes, les vidéos de propagande, les faux communiqués d'autorité. les traductions automatiques et ciblage linguistique pour diffuser des messages multilingues, l'automatisation du repérage de cibles via l'analyse d'images ou le piratage d'outils numériques, l'usurpation d'identité pour arnaque, ingénierie sociale ou fausse collecte humanitaire. Vous avez par exemple des deepfakes simulant des chefs d'État ou des membres d'ONG qui ont circulé dans certaines zones du Sahel pour décrédibiliser les actions de l'ONU. Donc, ces diversifications et sophistications des financements permettent à ces groupes de ne plus dépendre de dons ou de trafic traditionnels. Les crypto-monnaies permettent l'anonymat et l'évitement des circuits bancaires classiques. Les plateformes numériques et réseaux sociaux sont des appels déguisés à la charité, vente de biens, financement participatif masqué. Enfin, l'économie locale parallèle, les extorsions, les taxations de protection dans les zones où ces groupes contrôlent le territoire. C'est évidemment un défi pour les États et les institutions internationales. La difficulté à tracer les flux numériques, en particulier en l'absence de coopération des géants des numériques. Il y a une lente adaptation des lois et des régulations, souvent dépassées par les usages des groupes terroristes. La faiblesse des capacités techniques dans certains pays du Sud pour protéger les actifs, surveiller, pardon, les activités numériques. Et enfin, le problème de souveraineté numérique. Les données sont souvent hébergées hors des territoires concernés. Donc le terrorisme d'aujourd'hui, il est hybride, à la croisée de la guérilla locale et de la cyberopération mondiale. Ces groups terroristes deviennent de véritables start-up du chaos, il ne faut pas hésiter à les nommer comme tels, et qui sont capables d'exploiter les technologies émergentes mieux que certains États.
Oui, une dernière question, si vous le permettez. Face à cette situation, l'Afrique se trouve, selon les spécialistes, dans l'obligation de développer ses propres réponses. Quelle est l'importance des mécanismes régionaux comme le CEMOC, le Comité d'État-major opérationnel conjoint, ou encore l'Unité de coordination et de liaison et la Ligue des Oulémas du Sahel?
Alors, c'est une très bonne question, car face à la montée du terrorisme, l'Afrique est contrainte, obligée de bâtir des solutions régionales qui sont adaptées à ces réalités géopolitiques, culturelles et sécuritaires. On a le CEMOC, le Comité d'État-major opérationnel conjoint, qui a été créé en 2010 à Tamanrasset, en Algérie, par 4 pays du Sahel central, l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. L'objectif, ce sont les coordinations militaires transfrontalières contre les groupes terroristes dans la zone sahélienne, les partages de renseignements et planifications conjointes, les respects de la souveraineté des États membres, les actions militaires qui sont coordonnées mais non fusionnées. Ça a une importance stratégique car tout cela permet une réponse militaire africaine sans dépendre exclusivement des forces occidentales. Cela appuie la volonté algérienne de refuser toute base militaire étrangère sous son sol tout en restant proactive. Et elle souffre cependant d'un manque de moyens, de coordination opérationnelle et de volonté politique homogène. On a ensuite l'UCL, l'unité de coordination et de liaison, qui est basée à Alger. Cette unité dépend du comité de service de sécurité et de renseignement africain. Le rôle étant l'échange de renseignements de services africains, principalement focusé sur le Sahel et le Maghreb. Ça permet des alertes précoces, des veilles sécuritaires et des détections de menaces émergentes. Et elle renforce la confiance mutuelle entre États, souvent méfiants en matière de renseignement. Elle agit en arrière-plan, sans visibilité médiatique, mais constitue un outil clé de la coopération technique sud-sud, pilotée notamment par l'Algérie. On a l'exemple également de la Ligue des Oumela du Sahel, une structure religieuse créée sous l'égide du G5 Sahel et de l'Algérie pour répondre à la radicalisation par des moyens non militaires. L'objectif, c'est de promouvoir un islam tolérant enraciné dans les traditions locales, contrecarrer les discours djihadistes par une parole religieuse crédible et contextualisée, former des imams, produire des contre-discours religieux en arabe, etc. C'est stratégique parce que les groupes terroristes comme ACMI ou d'autres utilisent l'idéologie comme arme d'adhésion. Cela vise à reconstruire le lien entre spiritualité, communauté et sécurité dans un cadre culturel sahélien. Et donc face à ce terrorisme qui est de plus en plus transnational, l'Afrique tente de bâtir une réponse enracinée, souveraine et multidimensionnelle. Des outils comme le CEMOC, l'UCL ou la Ligue des Oumela du Sahel démontrent que la sécurité ne peut pas être seulement militaire. Elle passe aussi par l'intelligence, la culture, la diplomatie et le religieux.
Karim Belkacem, merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale, professeur de géopolitique et fin connaisseur des enjeux liés à la sécurité et aux conflits contemporains.
Merci beaucoup. À bientôt.
C'est ainsi que nous arrivons au terme de cette émission. Le supplément de l'info vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, notre émission est disponible sur le site de la radio et sur les réseaux sociaux.